oscillation intemporelle. Et si le dimanche à 19h était le moment d'une autre évasion sonore décalée, pas pareil sur fréquence 7, le moment d'une pause grandiose, intimiste, virtuose aussi, qui résonne de créations sonores et musicales d'au-delà de notre quotidien, ce que très largement chacun appelle selon son goût dans notre monde occidental, musique classique, musique savante ou grande musique. Oscillation intemporelle est animée par Marie au micro et à la conception, avec la complicité de Philippe Forger et le soutien technique de Sylvain. Diffusion de cette oscillation le 3 mai, rediffusion le 17 mai. Pour une écoute à votre convenance, rendez-vous sur le site de Fréquence 7 en lecture directe ou téléchargée. Cette oscillation intemporelle d'avril est un soutien aux jeunes valeureux qui ont choisi l'option musique pour leur baccalauréat. Cette année encore, parmi les œuvres au programme, il y a le concerto pour violoncelle en La majeur, WQ 172, de Carl-Philipp Emanuel Bach, et plus particulièrement l'Allegro assai. Et puis, selon le thème écriture, forme, graphisme, des œuvres du XIVe siècle, du style art subtil français. De Carl-Philipp Emanuel Bach, il y a beaucoup à dire.
Ah ben voilà, Bach à Bach. Carl-Philipp Emanuel, c'est un des nombreux fils et enfants de Johann Sebastian Bach. Donc le grand Jean-Sébastien Bach, qui a eu toute une progéniture, avec quand même plusieurs qui ont connu une belle carrière par la suite. Il y a Jean Chrétien, il y a Carl-Philipp Emanuel, Wilhelm Friedman, donc ont été des compositeurs. Carl-Philipp, c'est celui qui peut-être s'est intéressé le plus au clavier, comme son père. C'est-à-dire qu'il touche, on dit à l'époque, on ne dit pas il joue, mais il touche le clavecin admirablement. Et en fait, il va rester, lui, en Prusse. Et Frédéric II, donc le roi de Prusse, va l'appeler à sa cour pour en faire un des compositeurs de la cour. Il y a un tableau d'un peintre 19e allemand qui s'appelle Menzel, où on voit un concert à Potsdam, voilà, qui est le concert de flûte, ça s'appelle, qui est un tableau assez célèbre où on voit Frédéric II jouer de la flûte. Et sur ce tableau, on voit qu'il est accompagné notamment au clavecin par Carl-Philipp Emanuel Bach, dont on identifie le visage puisqu'il se tourne vers le roi qui est en train de jouer. Donc il participe activement à la vie musicale à Potsdam en tant que compositeur, en tant que pédagogue, parce qu'il forme Frédéric II à la composition. Et c'est un compositeur donc qui s'inscrit juste après son père. Jean-Sébastien va mourir en 1750 et Carl-Philipp Emanuel meurt en 1788. Donc on est au début de la musique dite, de la période dite classique, mais on est aussi encore en plein dans le Sturm und Drang, c'est-à-dire les passions et le tonnerre. Donc là aussi, comme c'est quelqu'un qui joue le clavier, explorer plein de tonalités dont on n'a pas l'habitude, en gros c'est poser les doigts sur le clavier ailleurs que les itinéraires un peu habituels, ça l'intéresse beaucoup. Il va aller procéder à une exploration qui est tout à fait saisissante, notamment dans un recueil qui s'appelle les pièces de caractère. Alors c'est des petites pièces qui ont un mouvement, et ces pièces de caractère, elles sont vraiment saisissantes dans la virtuosité, dans les couleurs, dans leurs intentions. Elles sont assez tonitruantes, c'est vraiment de la musique tout à fait passionnante. Carl-Philipp Emanuel va dédier donc un concerto. Alors un concerto, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre pour un ou plusieurs solistes accompagnés par un orchestre, ou dialoguant, ou s'affrontant à l'orchestre. Voilà, il y a tous les cas de figure. Le concerto, la forme, elle a été fixée en Italie bien avant, par Torelli, par Vivaldi. Vivaldi laisse plus de 600 concertos, c'est-à-dire qu'on a le soliste qui peut vraiment déployer toute sa palette de virtuosité, mais aussi d'expression, et l'orchestre est là soit pour le contrecarré, oui. Ça c'est intéressant, renforcer, et quand c'est juste pour accompagner, c'est vraiment pas intéressant. Ça c'est le chef d'orchestre, qui le dit. Moi j'aime bien, c'est quand l'orchestre essaye de contrecarrer le soliste. Comme si on essaye de l'empêcher d'aller là, et d'intervenir, de lui couper la parole, et puis après c'est lui qui la reprend. Enfin, j'aime bien ce jeu un peu ping-pong comme ça, ça c'est super. Et c'est un petit peu l'esprit de ce concerto de Carl-Philipp Emanuel, c'est-à-dire le violoncelle est très virtuose, en même temps il reste dans les canons de l'esthétique, je dirais de Potsdam à l'époque, c'est-à-dire galant. Mais c'est galant un peu débridé, donc c'est pas inintéressant non plus, voilà. C'est plutôt virtuose, effectivement, et ça vient commencé à créer un répertoire des concertos pour violoncelle. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup moins que des concertos pour violon ou des concertos pour piano. De la période baroque, il y a quelques concertos de violoncelle, pas tant que ça. Et puis après, il va quand même falloir attendre Haydn, qui va écrire deux concertos pour violoncelle, et puis Mozart n'en fera aucun, Beethoven n'en fera pas. Il faudra attendre vraiment Dvorak, il faudra attendre Elgar, il faudra attendre très tard dans le 19e pour que vraiment on veuille s'interroger sur la pratique et la technique de cet instrument. Donc c'est un précurseur, Carl-Philipp Emmanuel, qui ouvre la voie effectivement à pouvoir développer ce répertoire.
Et nous écoutons pour le plaisir le concerto pour violoncelle numéro 2 en si bémol majeur, WQ 171, avec l'orchestre de chambre de Saint-Paul sous la direction de Hugh Wolff, au clavecin Leighton Jones et au violoncelle Mislav Rostropovich. Thank you.
Thank you.
Les œuvres du XIVe siècle du style art subtil proposées à l'étude pour le bac de cette année sont « Ma fin et mon commencement » de Guillaume de Machaut, « Le ray au soleil » de Johannes Siconia, « La harpe de mélodie » de Jacob Senleches et « Tout par compas suit » composé par Baud Cordier. Ces pièces étonnantes se jouent de l'écriture pour leur harmonie, mélodie et rythmique, utilisent la fusion des arts musicaux et graphiques. Nous les écoutons pour le grand plaisir de les découvrir. D'abord, « Ma fin et mon commencement » est une œuvre qui se lit à l'aller puis au retour, c'est-à-dire que la musique ne se reprend pas au début de la phrase, mais va à reculons. La basse est interprétée par les mêmes instruments et les deux voix plus aiguës s'échangent leur partition. Le rythme est lui aussi inversé comme dans un miroir. Le texte évoque également une idée métaphysique lorsque le commencement et la fin coïncident, le temps cesse d'exister. maintenant ma fin et mon commencement, version Big Band. La harpe de mélodie est écrite dans le très minutieux dessin d'une harpe, les cordes en étant les portées. C'est un virelet, une forme poétique de la fin du XIIIe et du XIVe siècle. Le virelet se compose d'une strophe rimée de deux vers, suivie d'une strophe refrain ou formule répétitive musicale, avec des paroles différentes, propre à la reprise en chœur. Par Compassuit est écrit comme un disque vinyle dont les sillons seraient lus chacun à leur vitesse pour tous un même tempo. Baudecordier, son auteur, est connu pour ses méthodes de notation uniques et expérimentales. L'œuvre, un rondo, est écrit en rond.
Thank you.
le Ray au soleil est un canon à prolation pour trois voies. Et c'est un exemple unique de prolation irrégulier de cet art subtil français. Il utilise un rapport 4-3-1 et crée ainsi un effet de phasage rythmique intéressant entre les deux voies supérieures. Et cela 600 ans avant qu'un compositeur du XXe siècle, Steve Reich, ne popularise ce type de texture musicale. Depuis ses compositions nées de la découverte de l'écriture et des expériences destinées à l'éprouver, nous emporte plus loin dans les aventures contemporaines de cette écriture, quand les signes ondoient et se colorient.
La musique, c'est ce qu'on entend. Quand on est seul et qu'on veut improviser, on n'a pas besoin de donner son code de référentiel aux autres, puisqu'on est tout seul et qu'on improvise. Que ce soit vocalement, par le chant, ou sur un instrument, ou en tapotant sur la table, comme un instrument de percussion, bon, voilà. Mais quand on veut passer un code, pour que d'autres s'en emparent, il faut penser effectivement à ce référentiel. Comment on va noter les choses? Alors on le sait, il y a une notation traditionnelle avec ce qu'on appelle une portée, donc c'est 5 lignes, et sur cette portée, on va placer des signes, des symboles, en fait, à différentes hauteurs accrochées à la portée. Ça correspond à la hauteur des sons. Bon, à partir de là, on donne des noms, do, ré, mi, fa, sol, etc. Bon, ça, c'est le code classique qui a émergé au fil des siècles. Au départ, c'était pas tout à fait ça, parce qu'il y avait des portées qui faisaient 3 lignes et pas 5. On a mis ce qu'on appelle des neumes aussi. On a réfléchi à ce que pouvait être éventuellement la codification dans l'Antiquité, puisqu'on sait qu'il y avait des cérémonies chez les Grecs qui utilisaient beaucoup la musique. Et donc, est-ce que c'était uniquement de la tradition orale ou est-ce qu'il y avait quand même parfois un peu de support écrit, sans aller jusqu'à dire partition? Mais est-ce que ce support écrit existe? Aujourd'hui, on sait que oui. Mais c'est vraiment une histoire de spécialiste, hein, par contre. Mais ça veut dire que dès qu'on est plusieurs, que la partition est collective, il faut quand même avoir, ce que je disais au début, un référentiel commun. Bon. Alors, il y a plein de façons de faire. On peut imaginer effectivement que des courbes nous donnent des hauteurs.
Oui.
La courbe, ça fait partie des possibilités. Les couleurs, on peut utiliser des couleurs en disant que le rouge dans le haut de la courbe, ce sera ça, que le vert dans le bas de la courbe, ce sera ça, on peut utiliser ça. Il y a des compositeurs, je pense à John Cage. John Cage a écrit un aria pour voix seule. La partition, quand on l'ouvre, ce ne sont que des courbes, des dessins et des couleurs. Et il y a le Stripsody de Berio. Ça, il faut vraiment voir cette partition qui est formidable. C'est des dessins. Et tout est référencé comme ça. C'est-à-dire, il y a une part d'aléatoire aussi qui est laissée dans cette codification avec des courbes, des couleurs et une autre façon de noter la musique. Il y a une part d'aléatoire qui existe beaucoup moins dans la notification traditionnelle. Avec.
Aléatoire, improvisation.
Oui, ou en tous les cas, ne serait-ce que sur la durée, sur la longueur,
Ah oui.
sur des fois même la hauteur. On dit faut que le son monte, ou alors il faut que ce soit une note longue, mais sans en préciser exactement la longueur, la durée. Donc ça, c'est intéressant. Donc oui, on réfléchit toujours et encore à toutes les notifications possibles, à la façon de transmettre en fait vers quelqu'un qui pourrait s'approprier le texte et le faire revivre. On s'interroge toujours. Donc là, je parlais de dessin, de code, de couleur, etc. Il y a aussi dans l'espace. Il y a une autre œuvre de John Cage qui est très intéressante, où en fait il dit, pour faire cette partition, il faut une baignoire, un canard en plastique, un chauffe-saucisse pour les hot dogs vapeur, etc. Et il explique dans sa nomenclature comment on va utiliser tout ça, le son, la durée et le trajet sur scène, la trajectoire sur scène. Donc ça aussi, c'est une manière de noter la musique. Bien sûr, c'est drôle à la fin, mais au départ, c'est une organisation et de l'espace, et du temps, et des sonorités.
Et du voyage du son dans l'espace.
Carrément. Et dans sa partition, John Cage fait même quelque chose qui est très drôle, c'est qu'il dit il faut une bouteille de, je ne sais plus si c'est du martini ou je ne sais pas, il faut une bouteille de martini et un verre. Et en fait, dans son déroulé de partition, une fois que c'est parti, à un moment donné, il se sert un martini pour le boire, parce qu'il a besoin de boire un coup à ce moment-là. Mais même si c'est humoristique, il y a cette organisation de l'espace et du temps qui est prévue par la partition, appelons-la une partition.
Nous écoutons l'aria de John Cage.
You could enter your heart, non tanto ha so giovanic. No other way, don't espace, so help. Continue.
far removed, breaking the shell at rest. Observez la vostra terra, route no could express.
Et maintenant, Stripsody de et par Cathy Berberian.
Stripsody is a collage of the onomatopoeic sounds.
Stripsody est un collage des onomatopées que l'on trouve dans les bandes dessinées. Par exemple, le mot crack indique quelque chose que se casse. Je vais essayer de vous indiquer le début et la fin de chaque scène avec des guillemets. When the scene is beginning, and then I do the scene, and then I finish it off with the same quotation mark. Yeah. Blum, blum. Boing! You stupid kite, come down out of that tree! Come on! Or chop, chop, chop. Glam, 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 glam. Dong, dong, dong. Sigh. Simply dong. She's gonna take her to ride the weather to fall domestic clinic. Sob. Knock, knock, huh? Oh, smack. Oh, oh. Oh, 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 oh.
Oscillation atemporelle est terminée. Le prochain épisode en juin sera joyeux et facétieux. D'ici là, portez-vous bien.